Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Oui, on va aller la retrouver, notre analyste politique Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, tu vas nous parler de la nouvelle appli COVID Alert lancée par le fédéral. Est-ce que oui ou non, il faut embarquer, Emmanuel? On veut ta réponse.
Ben, c'est un grand dilemme. Moi, j'étais très, très sceptique face à ces applications-là quand le débat a commencé, là, je pense au mois d'avril, mai, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le gouvernement fédéral a procédé pour cette application-là. Premièrement, pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Ces applications-là, elles sont sur le téléphone. Elles ne fonctionnent que par Bluetooth. On a choisi une technologie où il n'y a pas de traçage. On n'utilise pas le GPS, là. Donc, impossible de savoir, par les données, là, tu sais, où votre téléphone est allé, etc. Tout ce qui arrive, c'est que quand votre téléphone s'approche assez près d'un téléphone qui a l'application aussi, le Bluetooth des deux téléphones se parle. Et il y a comme un espèce de code anonyme qui est généré et qui va être stocké dans votre téléphone. Et là, pendant 14 jours, votre téléphone accumule là, des codes anonymes de tous les téléphones dont il a été à l'intérieur de 2 mètres. Et si quelqu'un est testé positif, il va dire « je suis positif » dans l'application de son téléphone, qui va lui donner un code, mettons 742B22, je sais pas. Puis là, cette personne-là va rentrer le code dans son téléphone et ça va avertir toutes les personnes qui ont été proches que cette personne-là est positive. Donc, c'est pas une application de traçage comme telle, c'est une application d'alerte au danger. Et donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, ce qui m'a rassurée, je dirais, c'est que le commissaire à la vie privée fédérale et le commissaire à la vie privée de l'Ontario disent que d'après les informations qu'ils ont reçues, les communications qu'ils ont eues, tous les mécanismes pour protéger la vie privée possible, là, à la lumière de ce qu'on sait, ont été mis en place. Donc, il n'y a pas une inquiétude à notre vie privée. L'application connaît pas nos noms, connaît pas notre adresse, connaît pas qui on est, etc. Donc, là, pour l'instant, l'appli est seulement disponible en Ontario parce qu'elle est en train d'être testée là, pour voir si tout fonctionne bien, etc. Puis, elle va être déployée graduellement dans les autres provinces. Sauf au Québec, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Parce que le gouvernement du Québec, lui, a mené sa propre consultation publique, puis se donne là, jusqu'au mois de septembre pour finalement décider s'il va embarquer ou non dans cette application-là. Mais toi, tu m'as l'air plus sceptique.
Ah, ben en fait, j'avais le même scepticisme que toi au départ parce que, bon, moi, je suis toujours inquiète. Quand le gouvernement fédéral ou même provincial, peu importe, quand un gouvernement décide de jouer dans l'informatique, je t'avoue que j'ai comme une petite lumière jaune, là.
Et je reste sur
mes gardes. Oui, c'est ça. C'est à peu près ce son-là, mais j'aurais pas osé le faire. Mais bon, effectivement, ça m'inquiétait. Puis quand j'ai vu ton sujet, je suis allée la télécharger pour voir ce que ça faisait. Puis effectivement, bon, ben, ça dit que ma région, parce que le Québec dans le Canada est une région, en tout cas, ça, c'est un petit commentaire politique. L'application n'est pas encore dans ma région, alors je ne peux pas la télécharger officiellement. Mais c'est vrai que dès le départ, ça se veut très rassurant parce que ça dit, bon, on va pas demander tes infos, tout ça. Mais cela étant dit, je pense qu'on parlerait à un expert. Dès que ton Bluetooth est activé, il y a quand même des possibilités où quelqu'un pourrait avoir accès à des données. Mais on comprend que c'est pas ça l'intention de l'application. Ils ont tout fait pour nous protéger. Mais bon, moi, j'étais sceptique.
Je pense que c'est ça le doute, c'est que moi, j'ai été rassurée de voir que le gouvernement a tout fait pour me protéger. T'sais, je pense que le gouvernement a fait ses devoirs, puis surtout l'application, ils l'ont développée au Canada avec, entre autres, BlackBerry, là, qui est quand même la technologie et l'entreprise qui est maître au monde là, sur les niveaux de pare-feu, de sécurité, etc., pour ce genre de technologie. Donc, ça, c'est rassurant, mais je suis d'accord avec toi que l'inquiétude, c'est est-ce que ces technologies-là sont quand même susceptibles à être hackées, à être piratées par quelqu'un de l'extérieur. Mais là, il y a un... on embarque dans un moment dans la société où on se rend compte que, tu sais, le mythe, là, il va y avoir un vaccin au printemps prochain, puis tout va bien aller, là, c'est du n'importe quoi, là, on a compris, là.
Mais non, ça va être à Noël. Ça va être à Noël, Emmanuel.
C'est ça. Mais est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Est-ce qu'il va être utile? Surtout, là, faisons un calcul, avant que des gens comme toi et moi, on ait accès au vaccin, là, il va y avoir du temps qui va passer. Il va falloir vacciner les travailleurs essentiels, les gens de la santé, les personnes âgées, etc. Toi puis moi, là, on va être les dernières à passer. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faut essayer d'embarquer dans ces mécanismes-là pour faciliter la gestion du risque qui vient avec la pandémie et se donner les moyens de vivre le plus normalement possible. Et je pense qu'il est là, le dilemme. Donc, moi, je l'ai téléchargé. Puis, je vais voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, tu sais. Okay.
Mais je pense,
sauf que il faut dire, s'il n'y a pas au moins 60 % de la population dans une région donnée, comme tu dis, qui la télécharge, ça sert à rien, là.
C'est ça. Ben c'est ça. Tu touches au cœur du problème. Et le deuxième problème, Emmanuel, c'est que c'est bien beau tout ça. C'est bien beau se protéger. Mais quand tu regardes les nouvelles de la fin de semaine, où par exemple t'as les symptômes, tout ça, ou t'as eu un contact avec quelqu'un qui a été testé positif et que tu veux te faire tester, ben soit que t'attends 4 heures, soit que t'as pas accès au test de dépistage. Je veux dire, il y a tout ça aussi là. Je veux dire, moi je veux bien faire ma part, c'est-à-dire porter un masque, laver mes mains, garder les distances avec tout le monde, télécharger l'application, mais si à un moment donné, je dois me faire tester puis j'ai pas accès au test de dépistage, ben là, je trouve que le gouvernement remplit pas sa part de responsabilité.
Non, je suis d'accord et c'est un gros... Je veux dire, l'histoire du dépistage, c'est quand même un gros casse-tête que le gouvernement n'a pas réussi à résoudre. Il faut pas oublier là, que début juin, c'est même pas mi-mai, on allait atteindre 15 000 tests par jour, se rendre à 20 000, 30 000, il n'y en avait pas de problème, etc. Puis là, on est rendu début août et on n'est pas encore capable de mettre en place une logistique fonctionnelle pour que l'accès au dépistage soit efficace, rapide. Et ça, c'est très inquiétant parce que si on ne veut pas remettre la province en confinement, bien, ça veut dire qu'il faut que ces mécanismes-là roulent bien. C'est la seule façon que le système de santé fonctionne bien. C'est la seule façon que le système d'éducation... C'est la première ligne de défense, comme tu dis, c'est le dépistage. C'est pas les habits, c'est pas tout le reste. Et de voir que le gouvernement a encore de la difficulté à mettre en place des mécanismes et qui fonctionnent bien, ben c'est ça qui est inquiétant et qui risque de miner la confiance de la population.
Tout à fait. Parlant de confiance, je peux pas te parler ce matin sans te parler de ta chronique en fin de semaine sur notamment le témoignage de Justin Trudeau au comité des finances de la Chambre des communes. Est-ce que tu penses que Bill Morneau va survivre au scandale de We Charity?
En tout cas, ça fait très certainement partie du débat public et des discussions en coulisses à Ottawa. Pourquoi? Parce que ce qu'on a remarqué du témoignage de M. Trudeau, c'est que il a parlé de la perception de son conflit d'intérêts, hein, en disant toujours que dans sa tête, il n'y en avait pas, mais il y avait une perception de conflit d'intérêts pour avoir donné le contrat à We Charity. Mais il n'y a absolument rien dans son discours, ni dans celui de sa chef de cabinet, Katie Telford, qui a voulu mitiger la faute du ministre Morneau en ne s'étant pas récusé des décisions. Et donc, c'est comme si on l'a laissé en pâture, lui, dans ce marécage de conflits. Et est-ce qu'il est devenu un boulet pour le gouvernement? Je pense que la question se pose très clairement, mais en même temps, moi, ce que je fais valoir, c'est, OK, on congédie M. Morneau, on met un nouveau ministre des Finances. Est-ce que ça règle le problème? C'est pas lui qui est coupable d'avoir choisi We Charity, là. C'est pas lui qui est coupable d'avoir mis sur pied un programme bâclé. Ça serait comme un peu facile de lui faire porter le chapeau à lui. Ça n'excuse rien dans son manque de jugement éhonté dans la façon dont lui, comme ministre des Finances, a abordé ça. Mais je veux dire, la ministre responsable du programme, pas lui, là. c'est la ministre de la Jeunesse, l'Inclusion et la Diversité. C'est M. Trudeau qui est premier ministre. C'est ce gouvernement, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est pas Monsieur Morneau qui était responsable de, comme ministre des Finances, de poser toutes les questions pour s'assurer que ce programme-là soit légitime, soit bien fondé, que We Charity était la bonne entreprise à qui donner la gestion des bourses d'études. Lui, il est ministre des Finances, il est ministre du big picture là-dedans. Alors, je trouve ça un peu facile de s'imaginer que soudainement, parce qu'on se départirait de M. Morneau, ça réglerait le problème politique pour M. Trudeau et que ça mettrait un terme à ce scandale-là. Parce que dans mon esprit, il y a l'enjeu du conflit d'intérêts qui agace et qui défrait beaucoup les manchettes. Mais il y a un problème de gouvernance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, là. Je veux dire, ça démontre un gouvernement et un premier ministre qui sont pas capables de poser les questions de base, là. Pas capables d'avoir de l'imagination sur comment mettre en œuvre des programmes. Ce qui compte, c'est on va donner 900 millions aux jeunes, on va donner ça à We Charity. Ils sont capables de le faire. On se pose pas de questions sur la mise en œuvre, sur les risques que ça pose, etc. Puis c'est là qu'il y a un problème, là.
Emmanuel, je suis d'accord avec toi. C'est impossible que Justin Trudeau puisse larguer Bill Morneau parce que, dans le fond, Bill Morneau a fait exactement comme Justin Trudeau. Et moi, je pense que les deux doivent se tasser. Ben, ce n'est qu'une question de temps. Et imagine, Emmanuel, un instant qu'un maire d'une ville du Québec fasse le dixième de ce que Bill Morneau et Justin Trudeau ont fait. Combien de temps tu penses qu'il reste en poste? Combien de temps avant que le gouvernement du Québec mette la ville sous tutelle ou que l'UPAC débarque?
Non, c'est sûr qu'il y aurait des enquêtes beaucoup plus sévères, mais je pense que ce que ça illustre, cette histoire-là, par ailleurs, c'est à quel point Bill Morneau a été un ministre des Finances faible. Et là, je parle pas de sa gestion des finances publiques, je parle de son poids politique. Généralement, c'est sûr qu'on vit dans un système où le bureau du premier ministre a énormément de contrôle et exerce l'essentiel du pouvoir. Mais le ministre des Finances a généralement dans un conseil des ministres et dans le passé, c'était le cas avec M. Flaherty, c'était le cas avec Paul Martin, sert et comme un contrepoids, il est son propre pôle de pouvoir. Qui est capable d'exercer ses propres décisions, de mettre son pied à terre, de définir ses limites. Et c'est cette tension naturelle entre le ministre des Finances et le bureau du premier ministre qui permet, je crois, des bons tandems, des gouvernements qui prennent les bonnes décisions et qui permet de se poser les bonnes questions à certains moments. Et ce qu'on voit dans ce gouvernement-là, c'est que M. Morneau est resté un ministre des Finances tributaire du bureau du premier ministre et d'une certaine façon soumis au dictat du bureau du premier ministre. Et cette histoire de We Charity vient aussi mettre ça de l'avant. À quel point il demeure un ministre des Finances vulnérable et faible dans ce gouvernement-là. Et ça, ben, ça va jusqu'à remettre en question la faiblesse de son jugement aussi, là.
Et moi, j'ai comme proverbe, comme slogan, peu importe, la crème attire la crème et maintenant, je vais pouvoir ajouter les faibles attirent les faibles.
Oui, c'est exactement, mais c'est vrai d'une certaine façon, tu sais. Et c'est malheureux parce qu'il était un homme d'affaires immensément respecté, ceci étant dit, qu'il était vraiment vu comme un ministre qui serait fort et qui serait capable d'amener des contrepoids à l'approche très politique et fondée sur l'image de ce gouvernement-là. Il était vu comme quelqu'un qui amènerait la substance. Et malheureusement, au-delà de certaines choses qu'il a fait qui sont importantes, là, comme la réforme des fonds de pension et tout ça, il a beaucoup déçu, je pense, à ce chapitre-là.
Ben, encore une fois, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous ce matin, Emmanuel. Merci.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
C'était l'analyste politique Emmanuel Latraverse.
Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.